mémoire du Couserans revient dans ce dimanche matin. Raymond Gabart, bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez revenir sur une tradition, sur une fête qui était très marquée en Couserans, la Sainte-Barbe.
Et oui, aujourd'hui, parmi les très nombreuses fêtes d'ailleurs célébrées, depuis quand même une certaine époque, par les corporations, c'est-à-dire les métiers divers, tout ça, avec leur saint patron, j'en avais plusieurs fois parlé, et bien il y a celle des mineurs, mais aussi celle des pompiers. Alors, bien le bonjour à vous tous, chers auditeurs, de toujours, ravis de passer encore cette semaine ensemble. Et alors, petite historique des sapeurs-pompiers, appelés soldats du feu. Non, je ne veux pas mettre le feu, expression devenue une chanson d'ailleurs, et notre Johnny avait d'ailleurs un triste anniversaire là ces jours-ci. Et donc on va plutôt éteindre les passions et pourquoi pas en cette fin d'année faire la fête, entre parenthèses donc, et on verra ça, vous verrez plus tard. Voilà. Alors traditionnellement en cette période, c'est la fête des pompiers avec leur patronne, la sainte patronne, la sainte barbe, même si elle ne figure plus au calendrier. Et voilà pourquoi je vais évoquer cette semaine, mais aussi pour rappeler que le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Girons peut fêter son 170e anniversaire. Et oui, on remonte très loin. En effet, c'est vers la fin de l'année 1846, début 1847, que les archives de l'Ariège, mais aussi les journaux de l'époque, ont parlé de l'existence des pompiers, et tout comme à Foix et à Pamiers. Mais bien avant, les Grecs et les Romains avaient mis en place des hommes afin d'assurer la surveillance des villes, et ce que l'on peut appeler maintenant des veilleurs. Et c'est sous Saint-Louis, alors allez, je remonte de loin quand même, en 1254, donc on trouve ce qu'on appelait à l'époque le guet royal, et c'était assuré par des militaires, et le guet assis. Là, par contre, qui était des postes fixes toujours pour cette surveillance. Et à ce sujet, la municipalité de Saint-Girons, nous revenons en Couserans, au tout début du siècle dernier, avait instauré aussi un service de veilleur de nuit. Alors ici, les trois mois d'hiver, en gros c'était de décembre, janvier, février, il y avait deux veilleurs assermentés et armés de 11h du soir à 5h du matin. Et alors ici, on est les rues de la ville, en criant toutes les heures, à haute voix, ils étaient à disposition de la population en cas d'urgence, de maladie, mais surtout en cas d'incendie. Et ils donnaient forcément l'alarme, d'abord aux premiers voisins, puis on partait prévenir les tambours, clairons des pompiers, hein, qui faisaient après un tour de ville pour ameuter dans les pompiers volontaires. Et un autre, il y en avait toujours un qui était désigné pour aller ouvrir les portes du local à incendie. Ce qu'on appelait un local, voilà. Mais ce n'était pas tout, car durant leur tournée nocturne aussi, ces veilleurs devaient éventuellement fermer les portes et vitrages qui, par mégarde, étaient restés ouverts. Vous voyez, ils faisaient vraiment une surveillance, comme ça pourrait encore exister de nos jours, d'ailleurs, hein, par rapport à tout ce qui peut se passer la nuit. Et alors, nos sapeurs-pompiers, donc, ici, à la moindre alerte, sont sur le pied de guerre, comme on dit, pour lutter contre tout incendie, ce qui est à l'origine, quand même, de leur principale fonction. Hein. Mais comment sont nés ces bataillons du feu ? Eh bien, ils sont dus à Napoléon Ier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire, là. Et ici, en 1811, c'était quelques mois après l'incendie dramatique, un immense incendie dramatique, donc, c'était en juillet 1810, qui avait fait plus de 20 morts à l'ambassade d'Autriche, en France, donc, où se donnait un grand bal, justement en l'honneur de l'empereur, Napoléon. Et c'est à la suite de ça qu'on a pris conscience, donc, et le bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris sera mis en place, donc, suite, quelques mois après, suite à cet incendie. S'en suivirent, bien sûr, d'autres dans toutes les grandes villes, mais avec, ce que je dirais, des équipements vraiment rudimentaires au tout début. Et alors, il y a aussi une autre histoire par rapport à la couleur rouge. Et alors, la couleur rouge découle de la couleur du cuivre des pompes à bras, donc, et ces pompes à bras qui étaient astiquées régulièrement pour éviter le vert de gris, et le cuivre, et il y a une autre également explication, et par rapport à cette couleur de rouge des véhicules. En 1856, les pompiers de Paris reçurent une des premières pompes à vapeur qui était de fabrication anglaise. Or, il se trouve que cette pompe était peinte avec un rouge vermillon, vraiment, qui crachait beaucoup, un joli rouge vermillon. Et finalement, ce sera la couleur de référence qui va être adoptée, et ce, dans tous les pays. Donc, tous les pompiers du monde entier, donc, en gros, ont leur véhicule, fait tout le matériel d'incendie en rouge. Et maintenant que nous avons fait un peu connaissance avec ce corps si particulier, créé donc pour les tout premiers il y a environ 200 ans, pour lutter contre le feu, intéressons-nous à l'histoire donc des pompiers de la capitale du Couserans. Alors au travers de témoignages, mais surtout d'articles de presse, anciens ou plus contemporains, deux photos également de quelques archives, donc on a pu ainsi faire une historique donc sur les pompiers de Saint-Girons. Et alors on va remonter donc à l'année 1846. Le maire de l'époque s'appelait Antoine Michel. Hein, c'était son nom, son prénom, Antoine et Michel son nom. Et il était maître des forges. Et il avait eu le souci, lui, de créer donc des surveillances nocturnes aussi, surtout en période hivernale. Et vu les nombreux incendies qui se déclaraient dans les habitations vétustes, et souvenez-vous, il y avait eu avant ça, en 1721, la moitié de la ville construite en bois qui avait brûlé, donc là nous sommes un peu plus tard, dont les habitations étaient toujours, disons, constituées de torchis et de bois. Et donc, ayant la souvenance du drame donc, qui avait endeuillé la ville de Saint-Girons, donc cette année 1721, quelques hommes donc, seront aptes à combattre le feu en cas de déclaration, hommes comme toute la population d'ailleurs, qui était avertie par le tocsin. En principe, on se mobilisait à partir du tocsin. Et c'est eux qui organisaient alors les opérations, et ils étaient quelques-uns, c'était un peu les meneurs, qui consistaient à faire la chaîne avec des seaux. Alors, avec des seaux remplis d'eau. Alors, au début, ils étaient en bois. Ensuite, on faisait la chaîne, ce qu'on appelait, ils avaient même été en pot, et on faisait la chaîne montante. Alors la chaîne montante, c'était donc les seaux remplis d'eau, et c'était les hommes forts donc, qui faisaient circuler ces fameux seaux en bois. Donc, comme j'ai dit, qui par la suite seront en toile et même en peau de mouton. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient plus légers. Et puis, il y avait la chaîne descendante. Alors, la chaîne descendante, c'est-à-dire que les seaux vides que faisaient circuler les femmes, et même les enfants, mais aussi les vieillards. Et donc, il fallait ramener au point d'eau les seaux vides, d'où chaîne montante et chaîne descendante. Oui, c'était toute une organisation, et on imagine quand même la scène. Et puis, un an et demi, 200 après, en 1848, ce sera sous le maire Raymond Saux. Alors, entre autres, puisque j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, à qui l'on doit le très bel immeuble donc, de l'hôpital Hospice. Et à ses débuts, c'est ce maire Raymond Saux. Ensuite, ce sera monsieur le maire Dupré, Joseph, qui sera officiellement organisé, et c'est sous le maire Dupré, la compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Girons. Avait la nomination d'un capitaine. À l'époque, j'avais retrouvé que c'était monsieur Hubert Ferrage, qui, je crois savoir, aussi était ce qu'on appelait maçon charpentier. Voilà. Et également, il y avait un capitaine et un sous-lieutenant qui était M. Vidal, hein, c'est bien des noms de Couserans et tout ça. Et un peu plus tard, c'était en 1857, ce sera M. Auguste Tisney qui, par décret, donc, sera nommé donc, capitaine des pompiers. Alors, de ce M. Tisney, j'en parle souvent, parce qu'il va par la suite devenir architecte de la ville, à qui on doit énormément de réalisations, comme par exemple, je le rappelle, l'ancien abattoir de l'entrée de la ville de Saint-Jérôme, et c'était en 1883. Donc, M. Tisney, qui avait comme effectif quand même déjà une vingtaine d'hommes. Alors, bien sûr, comme je dis, le matériel était plus que rudimentaire, avec une partie de toujours ce matériel qui appartenait à l'État et l'autre partie qui appartenait à la ville. Alors, la ville, c'était une cinquantaine de casques, deux pompes à incendie, voyez, et tout le reste, tout ce qui était giberne, sabre, ceinturon, porte-baïonnette, fourreau, les tenues de ville également, ce qu'on appelait les tenues de gala, par contre, appartenaient à l'État. Et donc les pompes, tout ça, c'était la ville, le reste, tout ce qui était tenu ou autre, appartenait à l'État. Et alors la tenue, après, entre autres, la tenue du feu. Alors cette tenue du feu consistait en un pantalon et une tunique. Et c'est absolument tout. Toujours en 1858, c'est là que la compagnie de Saint-Giron sera quand même un peu mieux habillée, hein, surtout avec des trucs plus sécurisants. Et ce n'est que bien plus tard, hein, on remonte là, c'est toujours dans ces années-là, 1859 par là, que le premier règlement des sapeurs-pompiers de la ville sera validé. Et il sera signé également par Monsieur le maire, hein. Et là, c'était du très sérieux, monsieur le maire qui était Roudeil, et ce, après l'approbation, donc, toujours la même année, du préfet de l'Ariège, qui avait validé donc, tous ces règlements donc, concernant les pompiers de la ville de Saint-Jérôme. Et alors, ces dates sont, on peut dire, le point de départ du corps des sapeurs-pompiers de notre ville, dont la seule mission était alors la lutte contre les incendies. Et au fil des années, va se structurer et bien sûr mieux s'équiper, comme on le verra, car si on considère le matériel sophistiqué, mis en œuvre de nos jours, qui correspond bien aussi quand même aux besoins, hein, à la réalité, et aux missions aussi qui sont de plus en plus nombreuses, qui encombrent ce que l'on entend appeler les soldats du feu. Et actuellement, c'est des missions très diverses, et donc à qui sont confiés. Ils font de la sécurité à tous les niveaux, les pompiers, alors qu'avant, ils ne s'occupaient que des incendies. Voilà. Et alors, on peut dire que de chemin parcouru depuis les seaux en peau de mouton, les pompes à bras, tirées par des hommes ou des chevaux. Et tout cela était bien dérisoire. Hein. Mais quand même, il faut noter que déjà, l'année 1884, et là c'était encore à l'initiative d'un grand-mère, quelqu'un m'a interpellé la semaine dernière en sortant de l'émission par rapport au maire Trinquet, il faudrait que vous parliez de lui, j'en parle pratiquement toutes les semaines, et avec son conseil municipal, parce qu'il a énormément de choses à son actif, et c'est le maire Trinquet qui avait fait l'éloge des pompiers, et surtout c'était des pompiers volontaires, et il avait eu l'idée, et il avait pris l'initiative, du moins, de traiter avec une compagnie d'assurance, et nous sommes en 1884, afin que chaque pompier malade touche par jour une somme de 3 francs, et ce, dans l'exercice de ses fonctions. S'il était victime d'un accident, il aurait, lui et sa famille, une indemnité de 3 000 francs. Et voilà bien la preuve quand même qu'en pays couserin, et c'était il y a plus d'un siècle, 140 ans, même, la prévoyance préoccupait les idylles de l'époque. Et là, on était quand même prescurseurs. Voilà. Et alors, à une époque, par contre, plus contemporaine, il y a eu bien des événements, plus ou moins douloureux d'ailleurs, mais quand même les pompiers, puisque c'est un peu comme une grande famille, enfin moi, c'est que dans les divers témoignages que j'avais recueillis, déjà à 8, 10, 15 ans, on pouvait considérer ça comme une grande famille. Et comme en ce moment, au mois de décembre, là, nous sommes en période de Sainte-Barbe, et là, je rappelle, la patronne des pompiers, entre autres, et puis des mineurs, mais c'est des pompiers, eh bien, on va faire comme si c'était la tradition tous les ans, la fête de la Sainte-Barbe avec les pompiers, et ce, dans les années 60. Hein. Vous voyez, il remonte. Ça se passait toujours avec beaucoup de ferveur, bien sûr, mais aussi dans une grande convivialité. Et alors, je ne parle pas de l'allégresse très particulière, donc, mais c'est plus surprenant quand même, cette allégresse, gagnée, parce qu'il participait sans beaucoup de retenue, les hautes personnalités, plus diverses, j'ajouterai, et surtout les édiles de l'époque. Et comme quoi, ces gens-là, à l'époque, malgré leur fonction, ne se prenaient pas toujours au sérieux. Et ils avaient une certaine carrure, peut-être ça, c'était à cause de ça, mais qui finalement était de très proche de la population, et ce qui, on peut dire, de nos jours, a quand même pris une autre tournure. Voilà. Et ainsi, les agapes, qui commençaient toujours par un apéritif, et ce, même plusieurs apéritifs, dans un des ou plusieurs nombreux cafés de la ville, et ils étaient 16 ou 17 encore dans ces années-là, et puis suivi toujours d'un succulent repas chez de véritables traiteurs, on appelait ça des maîtres d'hôtel. Alors, ça se passait où ? Au Grand Hôtel du Madrid, à l'Hôtel de France, ou encore chez Rieux-sur-Couf. Et là, j'ai retrouvé pour cette année 1961, ça s'était passé à l'avenue Gallieni, chez M. Mirouz, établissement aussi bien connu depuis fort longtemps. Mais il y avait eu aussi, également, je crois que c'était en 63, dans les grands salons et les salles à manger du Grand Hôtel des Chênes, et cette fameuse fête de la Sainte-Barbe. Et où il avait régné, parce que j'ai retrouvé des articles journaux de cette époque-là, une très chaude ambiance, pour ne pas dire plus, et ainsi, après le champagne, le café, mais aussi le pousse-café et les diverses liqueurs, histoires, anecdotes, chansonnettes, avaient sérieusement fait monter, comme on dit, la température. Et alors, il y avait un vétéran, un fameux, que je n'ai pas connu, Edmond Clostre, qui avait eu son succès habituel, donc ça devait être le bout en train tous les ans, et qui avait eu un certain succès, tout comme le sapeur à cloque, avec son tempérament de fantaisiste. Alors lui, par contre, je l'ai connu, et c'est vrai et c'était un peu le style de Ouvrard, vous voyez. Et chez la gérate qui se dilate, voilà, enfin. Et donc, il avait époustouflé, c'est le cas de le dire, les gens qui participaient, donc, y compris les élus, à ces ripailles, voilà. Et également, il faut ajouter quand même qu'avait pris place dans les tables d'honneur le sénateur de l'Ariège, vous voyez, ça leur faisait pas de la peine de venir à Saint-Girons. Et également, avec des histoires plus ou moins légères aussi. Et c'est sans retenue aussi que l'adjoint, à l'époque qui était l'adjoint de M. Fernand Loubet, c'était M. Huchet, restait, pourtant qui avait des allures très, très sérieuses, avait raconté la sienne, le docteur Souvager, qui était également ce docteur des sapeurs-pompiers, et même, allez me croire, de notre député René Desjardins, voilà. Et avec leurs prestations, qui avaient, comme tous les ans d'ailleurs, parce qu'eux aussi, ils aimaient faire la fête, voilà. Et dans la circonstance, on pensait qu'à ça. Donc, moi, j'avais noté ça, vous voyez, tous ces notables-là qui, en fin de repas, se mélangeaient. Parce que, en plus, il faut dire que la plupart des sapeurs-pompiers, dans ces années-là, étaient employés de ville. Et donc, il y avait quelques artisans, même des commerçants, mais à 60%, 70%, c'était des employés de la ville. Et donc, ce qui permettait, ils étaient très, très disponibles, voilà. Il y avait eu même le journaliste, le rédacteur de la Dépêche du Midi de l'époque, je crois que c'était Jacques Doumain, vous voyez, et qui aussi avait donné de la voix. Et alors, forcément, ça se terminait aux alentours de 18h, hein, même plus des fois, et donc pour assurer une meilleure digestion, tous nos banquetaires, en cortège, c'est-à-dire à pied, d'où qu'il soit, avaient pris la direction du dancing de la ville, le Rex, hein, le fameux Rex, et qui se trouvait à l'arrière du restaurant Le Madrid. Et c'est une véritable institution à l'époque. Donc vous voyez, et puis ça avait fini, on rentrait à pied aussi, les gens qui n'étaient pas loin, il n'y avait pas les contrôles, enfin, de toute façon, il y avait les commandants de gendarmerie de l'époque, également, qui participaient, alors je ne sais pas, par contre, s'il avait un peu plus de retenue, lui, que les politiques ou les notables de la ville, voilà. Et alors, forcément, en partant au Rex, les gens commençaient à parler, à penser déjà à la prochaine Sainte-Barbe. Comme quoi, d'une année sur l'autre, vous voyez, on pensait déjà à la Sainte-Barbe. Et quant à nous, nous allons penser à la semaine prochaine, et elle est près de nous, on approche des fêtes aussi, et je vais vous parler de gastronomie. Et de gastronomie, mais vous verrez pourquoi. Je vais essayer après, aux alentours de la Noël ou de la fin d'année, que ce soit un peu plus festif, que ce soit musical ou autre. Et on fera un petit inventaire aussi de tout ce qui pouvait se passer, les veilles de fête dans ces années-là. Et les années, vous allez avoir une année précise, je vais choisir. Ce sera l'année 72, il y a 50 ans. Et vous verrez dans tout le Couserans, absolument dans tout le Couserans, toutes les fêtes et réjouissances qu'il pouvait y avoir. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir.